crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs.
Aujourd'hui, nous observons une peinture de Gustave Courbet intitulée « L'origine du monde » réalisée en 1866. C'est une huile sur toile de 45 cm de hauteur par 55 cm de largeur environ. Et cette œuvre, longtemps cachée du public, fut peu commentée à son époque. Elle était conservée chez son commanditaire, le diplomate turco-égyptien et amateur d'art érotique Khalil Bey. À ce moment-là, elle était protégée par un rideau de velours vert, de façon à ce que seul celui qui était autorisé puisse regarder cet étrange tableau. Puis ensuite, il fut conservé chez François de Hadvany à Budapest au début du XXe siècle, avant de devenir la propriété de Jacques Lacan, figurez-vous, dissimulé encore une fois derrière un panneau, cette fois-ci réalisé par André Masson. Cette œuvre est entrée définitivement et sans cache au musée d'Orsay en 1995 seulement. Jacques Lacan et André Masson, donc, sont nos regardeurs.
Dans le cabinet de toilette du personnage étranger auquel j'ai fait allusion, on voyait un petit tableau caché sous un voile vert. Lorsqu'on écartait le voile, on demeurait stupéfait de découvrir une femme de grandeur naturelle, vue de face, remarquablement peinte, reproduite con amore, ainsi que disent les Italiens, extraordinairement émue et convulsée et donnant le dernier mot du réalisme. Mais, par un inconcevable oubli, l'artisan qui avait copié son modèle sur nature avait négligé de représenter les pieds, les jambes, les cuisses, le ventre, les hanches, la poitrine, les mains, les bras, les épaules, le cou et la tête. Il est un mot qui sert à désigner les gens capables de ces sortes d'ordures dignes d'illustrer les œuvres du marquis de Sade, mais ce mot, je ne puis le prononcer devant le lecteur, car il n'est usité qu'en charcuterie. Maxime Ducamp, Les convulsions de Paris, 1878.
Origine du monde, vous l'avez compris, est un tableau de nu féminin réalisé par Gustave Courbet en 1866. Voyez-le au musée d'Orsay. Un corps de femme, disposé en diagonale, en travers de la surface, envahit tout le plan du tableau. Seul, en haut à gauche, un angle brun sombre échappe à la description du motif. Remarquablement peinte, une femme, donc, la chemise blanche relevée au-dessus des seins, est représentée, le ventre découvert en assez gros plan. Le cadre coupant la représentation au-dessus des genoux, en bas, et au-dessus de la poitrine, en haut. Donc un ventre nu, plaçant sous le nez du regardeur la vulve et le pubis d'une femme brune, la toison soigneusement décrite, lèvres du sexe fermées prolongées par le sillon sombre de la raie des fesses. Un fragment de corps, donc, merveilleusement représenté, qui, bien que dévoilé et absolument réaliste, cache de nombreux secrets. Autour de ce célèbre tableau bourdonnent des noms de femmes et d'hommes, des circonstances, des personnages historiques qui, jusqu'à la fin du XXe siècle, ont agité les interprétations et accentué finalement la légende de cette œuvre singulière. Une absolue innovation de l'art occidental, un unicum, comme disent les spécialistes, un pas franc vers le réalisme, mais aussi peut-être une allégorie réelle, comme aurait dit Courbet, d'un autre de ses tableaux célèbres. Enfin, une œuvre qui nous est infiniment présente, tant sont riches ses conséquences dans l'art moderne, vraiment une œuvre pour amateurs d'énigmes, une œuvre pour nous, les regardeurs.
Oui, c'est à voir.
Aller faire le mystère du sexe, oh, oui, oui. Hein, c'est pas facile.
Mais c'est tout simplement la vérité.
Parce que là, il y a un mystère.
Un mystère, non.
Il y a ces profondeurs qui sont soupçonnées, sans plus. Sans vouloir faire de... symbolique.
Alors, est-ce que ça vous semble, mais... est-ce que ça vous semble d'un réalisme et d'une crudité insupportable?
Non, pas du tout érotique. Pas du... Non, moi je trouve.
Mais ça dépend tout de l'ouverture d'esprit des gens. Il y a certaines personnes que cela va choquer, puis d'autres. Tout dépend ce qui se passe dans votre tête, tout simplement.
C'est quand même une célébration de la femme, puisque ce corps dans ses secrets est dévoilé au public. et avec un certain mystère quand même, parce que derrière ce sexe, il se passe la pérennité du monde, la pérennité de la vie. C'est par le sexe que l'enfant vient au monde, c'est par le sexe qu'on s'aime, c'est par le sexe qu'on désire, c'est par. Et je trouve que ce tableau, il est porteur de la grande dimension de la femme. Il a un petit peu divinisé la femme d'une certaine manière.
Pour parler de cette œuvre, je reçois dans notre émission l'artiste Jean-Jacques Lebel. Jean-Jacques Lebel, vous êtes... Bonjour d'abord, vous allez bien ?
Bonjour.
Vous êtes un artiste à l'activité excessive. Vous avez créé en 1955 une revue avec André Breton, Picabia et Perret qui s'appelait Front Unique. Vous avez été l'auteur de ce qui est considéré comme le premier happening européen, l'enterrement de la chose en 1960. Vous faites la première anthologie de la Beat Generation et aussi des œuvres, des expositions des autres qui souvent dans une sorte de démarche d'énonciation collective vous accompagnent, comme avec Polyphonix que vous avez créé également. Vous avez fait de très nombreuses expositions, Victor Hugo à Venise en 93, qui est une exposition fondatrice, également en 2000 à Paris, mais aussi des expositions Picabia au Centre Pompidou, Picasso érotique, Le Jardin des Roses à Barcelone. Et en ce moment même, vous êtes l'organisateur d'une exposition de Ginsberg qui se trouve au Centre Pompidou. Mais elle est finie, non ?
Elle est finie, oui.
Mais il s'en prépare d'autres ?
Il s'en prépare d'autres, notamment peut-être à New York, après Budapest.
Bravo, bravo. Et vous avez continuellement refusé de catégoriser toutes vos activités, commissaire d'exposition, artiste, etc. Elles répondent tous à un même processus, à une interrogation obstinée sur l'énigme de l'œuvre et l'énigme de l'art. Les énigmes, ça va être un peu le sujet de la journée. Hein.
Bah, tant mieux.
Nous sommes également en compagnie de l'historien de l'art Thierry Sabatier. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes un spécialiste de l'histoire et de la littérature du 19e siècle. Mais vous êtes surtout, en ce qui concerne notre émission d'aujourd'hui, l'auteur du livre « L'origine du monde, histoire d'un tableau » de Gustave Courbet, paru chez Omnia en 2006. Et je crois que vous préparez un nouveau livre. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, ben, c'est en fait une vue un peu plus globale de l'œuvre érotique de Courbet. C'est un livre qui s'intitule « Courbet, une révolution érotique ». Et qui va couvrir à peu près une soixantaine d'œuvres que Courbet a peintes et qui rentrent dans cette catégorie. Ça sortira à la fin du mois.
Chez le même éditeur ?
Chez le même éditeur, chez Bartilla.
Chez Bartilla également. Et donc, mais vous préparez, je crois, comme commissaire cette fois-ci, ou co-commissaire, je ne sais pas, une exposition à Ornans ?
Oui, co-commissaire scientifique d'une exposition qui s'appelle « Cet obscur objet de désir autour de l'origine du monde ».
Et j'espère que vous avez pu obtenir, ce qui serait d'ailleurs un peu un miracle, l'origine du monde elle-même à Ornans.
Oui, nous avons eu cette chance d'un partenariat très fructueux avec Orsay. Et donc, il y aura à cette exposition « L'origine du monde » et beaucoup d'autres œuvres. Le thème, c'est vraiment « Autour de l'origine du monde », donc beaucoup d'œuvres qui
Ils ont de la chance en Franche-Comté, je trouve, d'avoir ce tableau.
C'est la région natale de Gustave Courbet, qui était très attaché à sa région. Alors,
Guy Cocheval, le président d'Orsay, n'a pas pu dire non à la région de naissance de Courbet.
Sans aucun doute. Et ce sera la deuxième fois que l'origine du monde sera à Ornans, puisque la première fois, c'était en 1991, lorsque la toile appartenait à Sylvia Bataille, qui était à l'époque la veuve de Lacan, et où Jean-Jacques Vernier avait pu la faire venir dans le cadre d'une exposition d'œuvres érotiques d'André Masson. Mais là, ce sera vraiment une exposition concentrée autour de l'origine du monde elle-même qui va avoir lieu entre le 7 juin et le 1er septembre.
Jean-Jacques Lebel, pour un artiste comme vous, l'origine du monde a encore un intérêt au présent. C'est une œuvre qui peut participer de la création d'un monde mental personnel pour un artiste aujourd'hui.
C'est une icône. Elle est au cœur même de la pensée artistique, quand il y en a une. Et ça se fait de plus en plus rare. Mais quand il y a une véritable pensée artistique, on y trouve toujours l'origine du monde. Parce que, en fait, vous direz si vous êtes d'accord ou non, je pense que c'est un des premiers gros plans de l'histoire de la peinture. Et c'est très intéressant que le gros plan, on pense tout de suite au cinéma, ait préexisté à l'existence du cinéma. C'est-à-dire que le gros plan a inventé d'une certaine façon un regard cinématographique qui allait venir après.
Alors, vous avez raison de dire cela. Ça me fait penser d'ailleurs à une œuvre de Picasso qui est un gros plan érotique lui aussi et qui correspond sans doute à sa vision du cinéma de son époque.
Absolument. Picasso a souvent peint des gros plans, mais il a souvent beaucoup pensé à Courbet, hein, et il en a fait des variations infini.
Là, dans le tableau auquel je pense de Picasso, la femme en question est moins seule.
Oui, mais enfin bon, elle n'est pas seule chez Courbet non plus, parce qu'on réinvente toutes sortes de partenaires, puisqu'il s'agit de faire travailler les regardeurs, pour une fois, c'est paresseux, n'est-ce pas? Et on réinvente le tableau en le regardant.
Donc là, le regardeur est forcément actif, en effet.
Mais les regardeuses aussi, d'ailleurs.
Absolument. Mais dites-moi, surtout chez Courbet, qui avait un intérêt pour cette rencontre féminine d'une façon assez particulière. Est-ce que je me trompe?
Non, c'est vrai que dans l'œuvre de Courbet, dès qu'il y a deux femmes ensemble, il y a quasi systématiquement une connotation saphique et on ne trouve pas d'hommes. À une exception près, qui est une toile de jeunesse qui n'a pas grand intérêt, toutes les autres œuvres qui représentent deux femmes sont à l'exclusion des hommes, ou quand il y a eu un homme quelque part, il est uniquement suggéré, et là c'est au regardeur de travailler, par exemple dans Les Demoiselles des bords de la Seine, où on voit dans le fond, un petit bateau, une petite barque, on voit un chapeau d'homme.
Ou la femme au perroquet, on peut dire que le perroquet est peut-être un monsieur.
La symbolique phallique du perroquet, elle est connue depuis le
19e siècle. Bien sûr,
ah oui, vrai, absolument. Thierry Savatier, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jean-Jacques Lebel, mais parce que ce n'était pas forcément au cinéma que l'on peut penser pour ce gros plan, ce serait peut-être plutôt à la photographie.
La photographie, dès l'époque où elle a été inventée, c'est-à-dire dès le 19e siècle, ça a commencé tout de suite. Les photographes ont tout de suite compris que dans l'érotisme, voire la pornographie en fonction de comment on définit, il y avait un marché. Et à l'époque, de grands photographes, Vallou de Villeneuve par exemple, mais surtout Auguste Belloc, ont produit des séries de photos, et on en connaît quelques-unes. Beaucoup ont été détruites par
la police. On en a retrouvé d'ailleurs beaucoup dans l'atelier de Courbet.
On en a retrouvé aussi dans l'atelier de Courbet.
Donc vous voulez dire qu'on sait que Courbet les regardait et les collectionnait.
Bien sûr, il les avait chez lui.
Il avait des photographies, effectivement. Et d'ailleurs, certains nus féminins qu'il a peints, il les a peints d'après des photographies.
Parfois, on a l'impression que Courbet est après la photographie, contrairement à Degas, mais en fait, c'était là déjà, c'était là et très important.
C'était une de ses sources d'inspiration. Il avait comme source d'inspiration les gravures publiées dans la presse. Et c'est le cas, par exemple, pour l'atelier. Sa source d'inspiration, c'est une gravure de Valentin qui s'appelle « L'intérieur d'un atelier d'artiste au XIXe siècle ». C'est l'une de ses sources. Et le cas de l'Origine du monde, eh bien, c'est vraisemblablement, effectivement, une photo d'Auguste Belloc.
Avec le drap,
voilà.
N'est-ce pas ?
Jean-Jacques Lebel, vous pouvez nous la décrire ? C'est la photo de Belloc dont nous parlons, qui est une photo
de quelle période ?
Même période, des années 1860.
D'accord.
Oui, à quelques années près. C'est une dame qui est assise sur un fauteuil, les jambes écartées, le pubis à l'air, et elle a une sorte de drap ou de chemise blanche qui couvre le haut de son corps et on ne voit pas son visage. Donc, il est fort probable, vous en êtes d'accord, qu'il se soit inspiré de ces genres de photos par Belloc. Oui, c'est évident même. Ça crève les yeux, comme on dit.
Mais alors, donc, pour s'inspirer de cette photo ou bien d'un autre personnage, parce qu'il y a, si je ne me trompe pas, Thierry Savatier, beaucoup d'hypothèses sur le modèle.
Ah. Tout à fait. Il y a eu beaucoup d'hypothèses qui ont été émises. La première, c'était Joanna Eiferman. Joanna Eiferman,
qui est la femme.
Alors, c'était la maîtresse et le modèle du peintre Whistler.
Oui.
Joe l'Irlandais.
Qui était lui-même un
admirateur de Courbet.
Qui était lui-même un admirateur de Courbet.
Copain, même, on pourrait dire.
Ils étaient amis. Ils ont apparemment été assez fâchés. Je pense que c'est un peu à cause de Joanna Eiferman, parce qu'ils étaient ensemble à Trouville en 1865. En 1966, Whistler part pour l'Amérique du Sud et Joanna Eiferman arrive à Paris et elle devient pendant quelques mois la maîtresse de Courbet. C'est elle, très vraisemblablement, qui est le modèle blond-roux qu'on trouve dans les dormeuses.
Le mais dites-moi, les
il avait le poil roux. Alors que
le pubis est brun, Jean-Jacques Lebel.
Mais justement, pour cacher l'identité, pour que Whistler ne se fâche pas et ne le provoque pas en duel.
C'est une fausse barbe, en fait.
Voilà, c'est ça. Oui,
oui, alors c'est là où on n'est pas tout à fait d'accord avec Jean-Jacques Lebel. Oui.
Thierry Sabatier.
Courbet a écrit... que quand il avait son motif, il avait sa toile. Enfin bon, il essayait tout de même de coller à la réalité, même si parfois il a pris des libertés. Mais quand je regarde l'origine du monde, ce n'est pas du tout le portrait d'une rousse flamboyante que je vois. Donc je crois plus à une source photographique. Parce que même au niveau de la carnation, on n'a pas la carnation d'une rousse
qui
irlandaise,
d'une
peau plus laiteuse. Oui, donc voilà. Mais toutes les hypothèses sont ouvertes.
Vous parlez vraiment en connaisseur.
Grand ouvert.
Parce que moi, je trouve que l'incarnat de la peau que Courbet a peint est d'un ivoire très pâle, extraordinaire d'ailleurs, comme qualité de peinture. Ce n'est pas du tout une peinture qu'on pourrait donner l'impression d'être faite rapidement et pour un usage confidentiel, etc., sous l'empire de la passion ou du désir. C'est une peinture incroyablement méticuleuse.
Elle est techniquement, elle est extraordinaire, puisqu'on voit même les veines bleues dessinées sous la peau.
Les transparences sont fabuleuses.
Les transparents, absolument. D'un point de vue technique, c'est vraiment la perfection.
Qu'est-ce que vous savez de la commande? C'est une commande?
Alors là, c'est une question qu'on n'a pas encore tout à fait résolue. Disons
moi, je pense, j'étais sûr que c'était... À qui? Que nous savions que c'était ce fameux diplomate Khalil Bey.
C'est bien Khalil Bey, effectivement.
Il poursuivait de ses assiduités la dame en question,
semble-t-il. Qu'est-ce que vous voulez dire, Jean-Jacques Lebel? Je n'ai pas compris.
Bah, il faisait la cour à cette
ce collectionneur
irlandaise qu'il l'aurait rabroué. Et donc, il aurait demandé à Courbet de lui servir d'entremetteur, en quelque sorte, et de peindre le portrait de ce qui l'intéressait le plus.
Alors, ça, c'est intéressant, parce que c'est une version que je ne connais pas.
Non.
Moi, la version, documentée que j'ai pu trouver, c'est chez Jules Trouba. Alors déjà, Trouba, c'est un nom extraordinaire.
Oui, un peu exagéré comme jeu de mots.
Jules Trouba, qui était le secrétaire de Sainte-Beuve et qui avait vu dans l'atelier de Courbet une toile saphique qui s'appelle « Vénus poursuivant Psyché de sa jalousie ». On n'a plus qu'une gravure de cette toile parce qu'elle a été présumée détruite. Et Trouba en parle à Sainte-Beuve, qui en parle à Jeanne de Tourbet, qui était une courtisane de l'époque, qui avait un salon et qui était la maîtresse de Khalil Bey. Et Khalil Bey, qui entend parler de cette œuvre, veut absolument la voir. Il va chez Courbet, et nous sommes en 1866, et Courbet lui refuse la vente de l'œuvre parce qu'il l'avait vendue la veille à un agent de change. Et il lui dit, mais je ne vous inquiétez pas, je vous peindrai la suite. Alors la suite, c'est a priori le sommeil, c'est-à-dire le tableau du Petit Palais. Et comme il demandait 20 000 francs, ce qui était une somme importante par rapport au cours habituel des œuvres de Courbet à l'époque.
Oui, mais Khalil Bey était un flambeur et je pense que Courbet le savait. Il s'est dit, je ne vais pas mégoter sur cette affaire-là.
C'est vrai, mais Khalil Bey a tout de même marchandé a priori. C'est une hypothèse qu'un de mes confrères, Bernard Tessèdre, a émise et je pense qu'elle est tout à fait fondée. Khalil Bey aurait marchandé et Courbet, qui voulait garder les 20 000 francs parce qu'il voulait maintenir son cours sur le marché de l'art, aurait proposé un tableau supplémentaire. Et ce tableau supplémentaire, ce serait l'origine du monde. Mais il se trouve que, vous savez, même si j'ai publié le livre, je poursuis mes recherches sur le tableau et j'ai découvert, il y a 3 mois, une lettre assez étonnante, qui est une lettre de Charles Léger, qui est un historien de l'art qui a travaillé sur Courbet, à Alfred Valette, qui était le directeur du Mercure de France. Et ça date de 1931, et ça pourrait nous donner une nouvelle idée sur la question. Voilà ce qu'il dit, Charles Léger. Il dit « Je me suis laissé dire qu'un vieux littérateur nommé Blanpain, qui approcha Baudelaire et eut quelques rapports avec Courbet, vit dans l'atelier du peintre une grande toile représentant, disait-il, les femmes damnées de Baudelaire. L'une des deux femmes était agenouillée devant son ami, étendue, les jambes écartées. La tribade, une main avancée, semblait vouloir cueillir le sexe comme une rose. » Alors l'hypothèse que soulève cette lettre. Bon, Blanpain n'est pas un littérateur. Le seul Blanpain que j'ai pu identifier, qui connaissait à la fois Courbet et Baudelaire, c'est un certain Pierre Blanpain, qui était un peintre belge qui habitait Paris, effectivement, à l'époque. Maintenant, la toile, ça veut dire que Courbet aurait pensé proposer certainement à Khalil Bey une toile saphique beaucoup plus explicite, avec cette femme, les jambes écartées, et une autre femme agenouillée devant son sexe et la main prête à toucher le sexe en question, on peut penser finalement que Khalil Bey a refusé la toile parce que tout simplement, ce n'était pas une toile qu'on pouvait mettre dans son salon. Alors que les dormeuses ou le sommeil, donc la toile saphique qui se trouve au Petit Palais, on pouvait l'exposer dans le salon. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Mais finalement, on peut se demander si l'origine du monde, ça n'est pas eh bien, ce fameux sexe comme une rose que cette...
Il y a tellement de questions sans réponse. Par exemple, le titre, on ne sait pas d'où il vient, d'où il sort. Il ne vient pas de Courbet.
Ah bon, Jean-Jacques Lebel, le titre n'est pas de Courbet.
Il a été donné, on ne sait pas par qui.
C'est un très beau titre.
Oui,
et qui...
bien sûr. Mais il n'est pas...
Mais Jean-Jacques Lebel, je voudrais vous interroger sur quelque chose de plus global, parce que nous allons rebondir sur tous les événements de la vie de cette œuvre qui continue d'être insolente, si j'ose dire. Mais... pour un artiste comme vous, mais pour tous les artistes, cette puissance d'Eros que l'on voit à l'œuvre, dans cette œuvre, qu'est-ce que ça représente, Eros, pour un artiste? Est-ce que c'est si important que ça? C'est pas...
c'est tout simplement l'énergie vitale, le moteur de l'inconscient, donc du travail pictural, du rêve. C'est une chose qui absolument... universel, et Picasso le disait, n'est-ce pas, il n'y a pas d'art qui ne soit avant tout érotique.
Vous avez fait fait une œuvre, me semble-t-il, dans laquelle on voit les œuvres qui sont sous l'empire d'Eros.
Les avatars de Vénus.
Les avatars de Vénus, depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Donc
oui,
c'est continuel, c'est cette énergie que vous
vouliez
montrer.
À mon avis, si on regarde les sculptures préhistoriques...
les vulves qui sont dans les grottes...
Jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est une constante dans toutes les cultures, à toutes les époques, quels que soient les régimes politiques, quelles que soient les cultures dominantes, c'est une constante absolue. Dans les périodes où ces choses-là sont censurées, ça veut dire que c'est une période noire, sinistre, de dictature, n'est-ce pas ? L'Eros est la vie. Eros, c'est la vie, comme disait
Marcel
Duchamp, n'est-ce pas ? Et c'est la vie même. Et dès que l'Eros, ou Rose, comme la villa, disparaît, il n'y a plus rien.
Vous avez raison, mais quand même, ce qui m'étonne, évidemment, cette pulsion de vie, on la sent beaucoup dans l'histoire de l'art, mais comment peut-on dire à ce moment-là que cette œuvre de Courbet, qui vient quand même, ce que vous semblez souligner, dans la suite d'une série d'œuvres de l'histoire de l'humanité sur ce même sujet, en quoi est-elle si nouvelle alors ? Elle n'est pas nouvelle, qu'en pensez-vous, Thierry Savatier ?
C'est le gros plan.
Il est certain que le cadrage serré sur un sexe féminin, c'est quelque chose
c'est une première.
De très nouveau. On a connu l'équivalent dans la préhistoire.
Oui.
Et
oui,
puis,
c'est-à-dire quand vous allez dans la grotte Chauvet ou quand vous visitez les grottes préhistoriques, souvent il y a des vulves qui sont dessinées directement dans la terre, parfois au doigt, comme cela, et qui sont au fond de diverticules, et vous vous trouvez nez à nez avec
l'affaire. C'est pour ça qu'on avait pensé ensemble à faire une exposition, et il est toujours question de la faire un jour, qui s'appellerait « Avant, pendant et après l'origine ».
Oui, c'est vrai que on le trouve très bien, par exemple à Angles-sur-Langlin. Vous avez une Vénus qui est représentée et son sexe est représenté très clairement. Alors ensuite, on s'aperçoit dans l'art occidental que depuis la Grèce, l'époque archaïque, jusqu'à l'origine du monde, le sexe féminin pratiquement disparaît. Il y a
à cause de Savonarole, il en a brûlé quelques-unes.
Ça, sans doute, il avait une part de responsabilité. Oui. Mais il est vrai que en Grèce et même plus tard, le sexe féminin disparaît des œuvres qu'on peut exposer.
Oui, oui. Non, on le voit tout de même, mais c'est un petit peu un reliquat celte. Par exemple, en Irlande, ce qu'on appelle, je ne sais plus...
Shanag.
Oui, Shanag, c'est ouais. ces personnes qui écartent la vulve, comme ouais, ça, ouais.
Et
qui sont sur,
sur des
modillons.
En ivoire, il y avait surtout les bateaux transatlantiques.
Alors ça, c'est plutôt de l'art populaire, c'est un petit peu différent.
Ah, oui, mais enfin, c'est de l'art, quand même.
Mais absolument.
Et les piliers centraux des cases de la vallée de Sepik,
non, mais vous avez raison.
Avec les cuisses écartées.
Vous avez raison de
si on cherche là-dessus. Un peu hors de la zone occidentale, on en trouve partout. Et sans parler, évidemment, du chef-d'œuvre de Duchamp qui est à Philadelphie, n'est-ce pas ?
Alors là, quand vous abordez cette question, vous êtes sur les conséquences de l'œuvre. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu à l'origine, mais écoutons d'abord ce que pouvait en dire en 1889 Edmond de Goncourt.
Le marchand, un antiquaire, me dit « Connaissez-vous ça ?» Et il ouvre avec une clé un tableau dont le panneau extérieur montre une église de village sous la neige et dont le panneau secret, peint par Courbet pour Khalil Bey, représente un ventre et un bas-ventre de femme. Devant cette toile que je n'avais jamais vue, je dois faire amende honorable à Courbet. Ce ventre, c'est beau comme la chair d'un corrège. Edmond de Goncourt, journal, 29 juin 1889.
Alors, de même que je trouvais que toute œuvre valable et toute chose dans la vie qui est valable doit, de toute façon, venir de l'instinct poétique ou aboutir à la poésie, de même, je ne peux pas croire au réalisme en art. Je sais qu'il y a eu des écoles qui se sont dit réalistes, mais encore une fois, et là je crois que je ne sors pas du sujet, par exemple, si nous prenons Courbet qui se croit réaliste, eh bien nous voyons ceci, il a fondé une école réaliste. Bon, eh bien il est bon au Courbet, il n'est pas toujours bon, n'est-ce pas ? Et quand il est très bon, il n'est pas du tout réaliste, il est romantique, n'est-ce pas ? Hein ? Il est poète. Alors, pour moi, il n'y peut pas y avoir de réalisme. Qu'est-ce que la réalité ? Alors ici, nous devrions relire le discours de Breton, que j'ai relu récemment avec beaucoup d'émotion, qui est le discours sur le peu de réalité. Et où Breton, là, a fait justement cette réserve, n'est-ce pas ? Il y en a peu. Mais s'il y en a peu, il y en a. Alors évidemment, la question est celle-ci. Il y a la réalité, il faut la transformer. Voilà. Et en quoi ? En poésie.
Jean-Jacques Lebel, c'était, vous l'avez reconnu, parce que vous l'avez connu, la voix d'André Masson que nous entendions parler du discours sur le peu de réalité d'André Breton. Ça vous rappelle quelque chose ?
Oui, ça me rappelle le cœur de la question. Qu'est-ce que la vision ? Qu'est-ce que la peinture ? Qu'est-ce que la vie même ? J'ai vu peindre André Masson parce que j'habitais dans une cour et je surplombais son atelier. Je le voyais peindre tous les matins. C'est un personnage fascinant, Masson. Grand dessinateur.
Une culture admirable.
Absolument. Et à part Courbet, il a aussi beaucoup travaillé sur Hugo, Victor Hugo, dont il était pratiquement le voisin d'ailleurs, hein, parce que c'était rue de Sévigné que ça se passait. Oui, le discours de peu de réalité de Breton, c'est quand même curieux, vous l'avouerez, que chaque fois qu'on aborde un des grands problèmes d'esthétique, de pensée sociale, littéraire, critique, de quelque façon qu'on le fasse, on tombe toujours sur Breton. C'est quand même curieux. C'est comme si ce personnage...
Le mot curieux est juste, c'est sa curiosité qui était infinie.
Et ce déchiffreur, ce type qui est allé là où les autres n'allaient pas et qu'on le retrouve toujours, avec une, comme dit Masson, avec une grande émotion. Voilà. La question du réalisme est en effet immense. On ne va pas commencer à la traiter ici parce qu'il y a eu toute l'horreur du réalisme socialiste qui s'est branché là-dessus. Mais enfin... l'idée que Lacan ait demandé à son ami, ils étaient amis, André Masson...
Pardon, Jean-Jacques Lebel, c'est pour que nos auditeurs s'y retrouvent, c'est parce que André Masson a peint, comme vous allez le dire et nous le raconter, le tableau qui se trouvait chez Jacques Lacan, le fameux psychanalyste et théoricien, et écrivain et je ne sais pas comment...
Thérapeute, oui.
Thérapeute, joueur, etc. Comédien parfois. Le tableau était chez Jacques Lacan et il y avait devant un tableau d'André Masson qui servait de cache en quelque sorte. C'est pour ça qu'on a entendu la voix d'André Masson. C'est
parce exactement. Que là, voilà. C'est-à-dire que celui qui joue avec les mots, qui fait des calembours tout le temps, Lacan, n'est-ce pas, les noms du père, etc., a trouvé cette extraordinaire façon de parler du contenu, de cacher le tableau de Courbet, dont on dit qu'il était entre guillemets réaliste, par une œuvre d'André Masson, qu'il a commandé à André Masson, qui était surréaliste, c'est-à-dire cacher le réel par le surréel. Il faut le faire quand même.
C'était littéralement sur de la réalité.
Voilà, c'est quand même un jeu de mots pictural formidable. Mais il faut quand même rappeler qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà travaillé dans cette direction, c'est Goya, qui a peint la Maya Desnuda et la Maya Vestida. Et la Maya Vestida, c'est-à-dire sa maîtresse, était habillée, couchée sur un lit, et avec un système de poulies, on pouvait soulever ce tableau et la Maya Desnuda apparaissait en dessous. C'est-à-dire, l'idée d'une double image, d'une image qui en cache une autre, était déjà dans l'air. Elle était déjà là.
Alors, Thierry Savatier, donc, peut-être vous pourriez nous décrire le tableau de Masson, parce que c'était un tableau qui avait quand même une relation avec le sujet.
Oui, mais le tableau
c'est
de
la
Masson,
même chose.
Voilà. Quand on le regarde, sans avoir en tête l'origine du monde, on voit un paysage qu'il appelait une terre érotique, un paysage comme il en a peint ou dessiné un certain nombre. Et en fait, ce paysage reprend tous les contours de la toile de Courbet.
Mais pour devenir effectivement les silhouettes des paysages, des vallons.
Voilà,
absolument. Le vallonnement paraissait ne pas être seulement celui de la femme, mais celui d'un paysage. C'est la double image dont parlait Jean-Hubert Martin en conversation avec Jean-Jacques Lebel.
Absolument, c'est vraiment très étonnant parce que lorsqu'on voit les deux œuvres côte à côte, là ça devient tout à fait flagrant qu'on a les principaux contours de l'origine du monde, mais transposés en paysage.
Mais comment ce tableau... Pardon, Jean-Jacques Lebel, vous vouliez dire
Non, je voulais juste dire, est-ce que ce n'est pas une métaphore pour la peinture elle-même? Parce que chaque fois qu'on regarde un tableau, si on avait le regard spectral, on pourrait retrouver dessous toutes les toiles qui ont inspiré celle-ci, n'est-ce pas? Il y a une sédimentation permanente de la mémoire picturale qui fait qu'un tableau en cache non seulement un autre, mais des dizaines et des dizaines d'autres.
C'est la superposition des couleurs dans Thume de Marcel Duchamp,
voilà,
qui donne l'impression qu'il y a une infinité, un mille feuilles interminables.
Dans un rêve à l'infini.
Mais d'ailleurs, parlant de sédimentation, je reprends votre mot, Jean-Jacques, c'est que dans ce panneau de Masson, on retrouve quelque chose d'extraordinaire, c'est que ce paysage érotique qui reprend donc les contours de l'origine du monde, eh bien, déjà en 1938-39, alors que Masson, a priori, ne connaissait pas l'origine du monde, il avait réalisé des dessins, et en particulier un dessin, commentaire sur une œuvre de William Blake, je crois, ça s'appelle, qui représentait un homme tentant de rentrer dans une faille de montagne, mais la faille de montagne, c'était une femme dont on ne voyait pas le visage, mais simplement les seins et les cuisses écartées, et la faille était le sexe.
Et la fameuse Gradiva, le grand tableau magnifique qu'il a peint en 38, qui a été acheté par le Musée national d'art moderne, oui. Et où on voit une femme dans la même position que dans l'origine du monde, mais on voit tout son corps, et il y a des volcans qui explosent tout autour, ce qui ne cache rien.
Mais Masson ne connaissait peut-être pas l'origine du monde à ce moment-là, mais il connaissait les grottes de Courbet, qui sont exactement le même sujet tout de même,
hein,
c'est des métaphores. Ah,
mais
dans la légende de ce tableau, dans l'aventure inouïe de ce tableau, participe largement à sa légende le fait étrange qu'il ait atterri chez Jacques Lacan. Alors peut-être l'un ou l'autre, vous pourriez nous raconter comment il est arrivé là-bas, la relation de Jacques Lacan Et parce que quand on dit Jacques Lacan, il y a Bataille qui est pas très loin.
Et surtout Sylvia. Je crois que
racontez-nous, parce que nous savons pas tout ce qui est Sylvia.
Si vous en êtes d'accord, je crois que c'est un cadeau qu'il a fait à sa femme. Sylvia ex-Bataille, qui était mariée à Sylvia Bataille. L'idée, n'est-ce pas, ce serait que dans la partie de campagne, dans
le film version, de Jean Renoir, c'est ça ?
La version qu'on connaît, il y a l'escarpolette, il y a Sylvia Bataille sur l'escarpolette et qui joue avec ces deux les deux types qui lui font la cour et on ne sait pas si elle a une culotte ou non, n'est-ce pas ? Elle les excite, c'est un moment d'une intensité érotique incroyable.
Mais c'est coupé juste au moment où...
Où les spectateurs et spectatrices vont croire qu'ils vont voir quelque chose, c'est coupé et on voit de l'autre côté du petit cours d'eau six séminaristes habillés en curé qui passent. Et
ces séminaristes ?
C'est le premier, c'est Georges Bataille, qui était encore marié à Sylvia Bataille, et Henri Cartier-Bresson, dont il y a une magnifique expo en ce moment à Beaubourg, et qui était l'assistant de Renoir, et qui tourne la tête comme par hasard juste au bon moment. Mais nous ne saurons jamais ce qu'ils ont vu. Encore une fois, l'énigme. Alors, donc, il y a un plan qui manque à ce film, n'est-ce pas ? Et l'idée, n'est-ce pas, c'est que Lacan... tout ça, c'est une supposition, hein, mais pourquoi pas, aurait offert à sa femme le fameux plan manquant, c'est l'origine du monde.
Très joli.
C'est une supposition.
Et
l'histoire de l'art est un énorme fantasme qui n'en finit pas d'être mis en question et en jeu, mais pourquoi pas.
Qu'en faisiez-vous, Thierry Sabatier ?
C'est une très belle approche. J'avoue que je la trouve très pertinente.
Pourquoi est-ce qu'elle aurait ça, ce tableau-là, elle ?
Oui,
Sylvia.
Alors là, il y a, en fonction des sources d'informations qu'on a pu trouver...
Vous êtes un sacré enquêteur. Hein.
Ah, il faut se transformer parfois en juge d'instruction et j'allais dire instruire à charge et à décharge. Mais il est clair que...
En l'occurrence, attention.
Non, mais c'est pourquoi je ne suis pas allé plus loin. Mais il est vrai qu'en enquêtant, on s'aperçoit que certaines versions nous disent que c'est un cadeau fait à Sylvia. D'autres versions disent que c'est Sylvia qu'il a acheté, ce qui paraît peu probable. En revanche, on a à peu près la certitude que c'est Lacan qui l'a acheté. Ensuite, qu'il l'ait acheté pour lui ou pour Sylvia, il y a un élément quand même qui me fait penser qu'il l'a plutôt acheté pour lui, c'est qu'il insistait, et ça j'ai des témoignages concordants que j'ai pu réunir, il insistait pour être le seul à montrer le tableau. Et par exemple, Thibault Lacan, son fils, m'avait raconté qu'un jour, à Guitrancourt, la maison de campagne que Lacan avait, il avait montré le tableau à un de ses copains. Ben oui, les adolescents qui savent qu'il y a un tableau comme ça...
Se fait engueuler.
Bon. Eh bien, Thibault Lacan m'a dit, mais mon père m'a passé un terrible savon. Il m'a dit, je suis le seul à pouvoir montrer ce tableau.
Oui, mais enfin...
Jean-Jacques Lebel.
Il était le seul à vouloir poser les termes de l'énigme et à savoir que s'il l'avait offert là et il savait très bien que sa femme passait par là tous les jours, alors qu'ils étaient à la campagne, et que c'était ça le sens qu'il donnait lui au tableau. C'était quelque chose qui était offert à la femme qui était sur l'escarpolette de Renoir.
C'était pour donner les éléments de la dramaturgie.
Voilà.
En fait,
et s'il n'y a pas cette dramaturgie, c'est simplement un tableau bien peint, magnifique, mais il y a l'histoire, c'est-à-dire ce qu'on appelle en psychanalyse l'interprétation, ne pouvait venir que de lui.
Donc il y a un montage dans ce montrage.
Ben voilà, comme toujours. Et je dois dire que c'est assez convaincant, cette histoire de Renoir. La partie de campagne, qui elle-même était très picturale, puisqu'il est le fils d'un peintre aussi.
Moi, l'idée me plaît beaucoup.
Oui. Et en tout cas, j'en ai parlé une fois avec Henri Cartier-Bresson, et il a trouvé ça très pertinent. Je n'ai pas pu en parler avec Bataille, parce que les rares fois où je l'ai vu, on a parlé d'autre chose. Mais Cartier-Bresson s'en souvenait fort bien.
Alors, mais j'aimerais bien, puisqu'on parle de Lacan, j'aimerais bien que nous écoutions justement Jacques Lacan parler de cette fonction de ce qui est caché et révélé.
Voilà. Je dis toujours la vérité. Pas toute. Parce que toute la dire... On n'y arrive pas. La dire toute, C'est impossible matériellement sans les mots qui y manquent. C'est même par cet impossible que la vérité touche au réel.
Dans ses écrits comme dans son séminaire, Lacan n'a jamais dit un seul mot de l'origine du monde. Mais il a tout de même consacré plusieurs séances à la question « Qu'est-ce qu'un tableau ?» Question à laquelle il répond qu'un tableau, surtout quand il s'agit d'une icône, est un objet qui nous regarde et nous transforme à notre tour en tableau.
Qu'est-ce qui peut matérialiser pour nous, de la façon la plus nette, cette relation d'interposition qui fait que ce qui est visé est au-delà de ce qui se présente, sinon ceci, qui est vraiment une des images les plus fondamentales de la relation humaine au monde, le voile, le rideau. Le voile, le rideau devant quelque chose, est encore ce qui permet le mieux d'imaginer la situation fondamentale de l'amour. On peut même dire qu'avec la présence du rideau, ce qui est au-delà comme manque tend à se réaliser comme image. Sur le voile se peint l'absence. Ce n'est pas autre chose que la fonction du rideau, quel qu'il soit. Le rideau prend sa valeur, son être et sa consistance d'être justement ce sur quoi se projette et s'imagine l'absence. Le rideau, c'est, si l'on peut dire, l'idole de l'absence. Jacques Lacan, La fonction du voile, conférence du 30 janvier 1957.
Tais-toi, ne dérange pas, nous sommes extrêmement occupés. Belle invention, l'escarpolette.
Mon entrope Nigo, tu vois tout, tu vois rien du tout.
Oh, ben c'est parce qu'elle est debout. Si elle pouvait s'asseoir, le paysage deviendrait beaucoup plus intéressant.
Du film de Jean Renoir, L'Escarpolette, dont vous parliez tout à l'heure, Jean-Jacques Lebel, je voyais rigoler comme ça en écoutant ces coquins qui regrettaient, je crois, qu'elle soit debout sur sa balançoire. Elle aurait trouvé ça beaucoup plus intéressant si elle était assise.
Ben oui. Citation de Fragonard. Encore un,
exactement.
Encore un tableau derrière le tableau, derrière le tableau à l'infini.
Donc tableau célèbre de Fragonard, appelé L'Escarpolette.
Bien sûr.
Où on est exactement dans la même scène que celle voilà. De Jean Renoir. Oui.
C'est quand même étonnant tout ça, n'est-ce pas je crois que, pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, il prétendait être le seul à dévoiler le tableau, parce que si ça avait été Sylvia elle-même, ça veut dire qu'elle dévoilait son propre corps, puisque symboliquement,
oui,
c'était celui de la dame sur l'escarpolette, c'est-à-dire elle. Donc il préférait le faire lui-même plutôt que sa femme devant ses visiteurs. Et alors, là, on peut parler d'une autre énigme c'est le moment.
Alors, oui, parce que je vous vois, Jean-Jacques Lebel, avec sous les yeux une photographie que vous regardez qui a l'air d'être une bande de copains, non ?
Ben alors, c'est en 1955, toujours, à Guitrancourt. Lacan,
donc chez Jacques Lacan.
Chez Jacques Lacan, Jacques et Sylvia Lacan, maison de campagne où j'ai vu le tableau d'ailleurs, quelques années après. Il voulait toujours inviter des penseurs. Il était très intéressé, en l'occurrence, par Martin Heidegger, dont il a par la suite traduit un des livres. Alors, dans cette photo, on voit Martin Heidegger, Kostas Axelos, qui était le grand philosophe, et qui était le patient de Lacan, un des patients de Lacan. Lacan lui-même qui rigole, qui éclate de rire. Ensuite, Jean Beaufray, qui était le traducteur, un des traducteurs de Heidegger en français. Madame Heidegger, qui a l'air d'être une espèce de concierge, il faut le dire quand même, une espèce de petite bourgeoise.
C'est pas Anna Arendt, oui.
Et à droite, Rhea Axelos. Alors, ils se sont vus, il y a plusieurs photos, ça s'en est qu'une. Je dois dire quand même que non seulement Lacan éclate de rire, mais Heidegger esquisse un sourire. dire. C'est quand même bizarre de sa part. Alors, la grande question est la suivante. Une des grandes questions. Est-ce que oui ou non, il a montré l'origine du monde qu'il avait, qui était dans son salon, hein, sur le buffet, est-ce qu'il lui a montré à Heidegger ce jour-là ? Alors, malheureusement...
Mais qu'est-ce qui vous fait hésiter ? La personnalité
Je veux dire, c'est
un peu agaçante.
S'il l'a fait, c'est un coup de génie et de maître, parce que Heidegger était vraiment un puritain. Un grand puritain. Je ne parle pas de son passé nazi. Hein. Je parle de l'homme, du penseur. Jamais rien d'érotique ne transparaît dans son œuvre. Axelos, lui, était un bon vivant, un libertin. Et Réa Axelos aussi. Mais enfin, bon, l'idée de dévoiler ce tableau devant un des grands philosophes de l'époque, avouez quand même que c'est une sorte de... J'allais dire de performance, c'est beaucoup plus qu'une performance. C'est une action artistique fondamentale, un passage à l'acte. On dit ça en psychanalyse, un passage à l'acte étonnant. Et on ne saura jamais s'il l'a fait ou non. Donc l'énigme persiste.
L'énigme persiste. Alors Thierry Sabatier, ce tableau est à un moment donné devenu public. Comment a été la réception publique de ce tableau ? Est-ce qu'il a choqué ? Est-ce que les autorités étaient ravies ? Ou est-ce qu'il y a eu des problèmes ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ce tableau, en fait, il a été donc donné à l'État sous forme de dation, ce qu'on appelle une dation, donc pour régler en partie des frais de succession.
De Lacan.
Et de Sylvia. Et en fait, le tableau a été reçu au musée d'Orsay de manière tout à fait officielle. À l'époque, c'était Philippe d'Oustoblasi qui était ministre de la Culture et qui, d'après des témoins que j'ai interrogés qui étaient invités, a tout fait pour éviter d'être photographié à côté du tableau. Il faut dire qu'à l'époque, il était, je crois, maire de Lourdes. Et évidemment, j'imagine que...
Un jeu de mots, maire de Lourdes.
J'imagine qu'il n'avait pas nécessairement souhaité, vis-à-vis de son électorat, de se trouver photographié à côté. Mais le tableau a été exposé sans cache. Et finalement, les réactions du public sont très intéressantes. Bon, on en a entendu quelques-unes tout à l'heure de quelques dames qui ont regardé le tableau. J'ai passé un certain temps sur place, dans le cadre de mes recherches, à écouter le public. J'ai interrogé aussi les gardiens. Et finalement, à part quelques puritains américains qui trouvent ça absolument impossible, mais sinon, le public regarde l'œuvre.
Mais l'administration s'était emportée. Je crois qu'à un moment donné, il y a eu la publication d'un livre avec l'origine du monde en couverture qui a été interdit par l'administration.
Oui. Alors,
le livre de Jacques-Henri.
Là, nous entrons dans un aspect qui est la censure du tableau. Et c'est un aspect que je suis de très près. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une censure, et il y en a eu plusieurs, je publie un article sur mon blog culturel qui est hébergé par lemonde.fr. Il y a eu, depuis 1994, des séries de censures. Et Jacques Henry, qui a effectivement, avec son roman Adoration perpétuelle, était la première victime de l'application du nouveau code pénal et d'un article qui porte le nom bucolique d'amendement Jolibois. En fait, c'est l'article 227-24.
Dont on fait des flûtes.
C'est le nom d'un sénateur, en fait. Mais cet article est la porte ouverte à, finalement, toutes les censures possibles d'artistes et de commissaires d'exposition. Et Jacques Henrich avait fait figurer une petite vignette avec l'origine du monde sur la couverture. On a saisi un certain nombre d'exemplaires dans les librairies, mais depuis il y a eu d'autres censures.
Juste pour rendre justice à un ancien ministre de la Justice, Jacques Toubon, qui est un vrai amateur d'art, a immédiatement remis les choses dans l'ordre, je crois. Hein.
Tout à fait. Jacques Toubon a publié dans Le Monde un article à l'époque disant que la volonté à l'époque des parlementaires, c'était de lutter contre les Minitel Roses. À l'époque, c'était le Minitel, on n'avait pas encore Internet. Mais finalement, on s'aperçoit que cet article n'est jamais utilisé contre des sites Internet pornographiques. Il n'est pratiquement toujours utilisé que contre des artistes et des commissaires d'exposition.
Jean-Jacques Lebel, vous vouliez intervenir ?
Oui. une des choses les plus passionnantes avec ce tableau de Courbet, c'est que il a un mythe, et que le mythe est au moins aussi puissant que le tableau lui-même. Il y a beaucoup d'artistes qui en avaient entendu parler. Et une photo en noir et blanc circulait avant la guerre et juste après la guerre. Et le fait de ne pas l'avoir pu la voir, cette toile, mais d'en rêver, a influencé énormément d'artistes. Par exemple, figurez-vous que Fujita, le peintre japonais, a fait une origine du monde. Par Ouidir. Il a peint par Ouidir, n'est-ce pas ? Et beaucoup d'autres aussi.
Mais alors, pardon, je suis obligé de vous poser la question. Marcel Duchamp, qui a fait cette œuvre, étant donné, l'avait-il vu ?
Probablement pas.
Pourtant, on associe très souvent, étant donné, à l'origine du monde.
Bien entendu, mais on peut très bien associer les choses par la pensée. Et il ne l'avait pas vu parce qu'il a commencé, étant donné, dans les années 40 et 50, à New York, dans son petit atelier où personne n'avait le droit d'aller. Et il avait évidemment entendu parler de Courbet. La preuve, c'est qu'il a fait des morceaux choisis de Courbet, où on voit la femme au perroquet, etc. Il en avait entendu parler. Il était très lettré, Marcel. Hein, il était connaisseur. Mais il n'avait jamais vu la toile. Mais ça n'empêche pas que cette toile qu'il n'avait pas vue l'a beaucoup influencé.
Mais pour nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas tous étant donné, donc c'est cette grande installation de Marcel Duchamp que l'on peut voir à travers un œilleton qui se trouve au musée de Philadelphie. Et lorsque l'on met son œil et que l'on devient regardeur, voyeur ou voyant peut-être, on voit une femme dans la position à peu près de l'origine du monde avec une forêt et une cascade derrière.
Et la feuille de vigne femelle aussi qui était un véritable moulage.
La feuille de vigne femelle, c'est un moulage d'un sexe féminin en effet. Voilà. Alors, je voudrais quand même, Thierry Savatier, revenir aussi sur une autre question. Il me semble avoir lu dans votre livre sur l'origine du monde une postface dans laquelle vous expliquez qu'il y a peut-être une autre hypothèse sur le sens de cette origine du monde.
Oui, alors c'est en fait effectivement dans la dernière postface que j'évoque cette question. L'origine du monde pourrait représenter une femme enceinte. De l'ordre de 4 à 5 mois. Et en fait, tout est venu d'une observation de l'œuvre. Il se trouve que ma femme est médecin hospitalier. Il se trouve qu'elle a fait beaucoup de gynécologie. Et nous avons une copie à la maison de l'origine du monde que nous regardions toujours en tant qu'amateur d'art. Et puis ça s'arrêtait là. Et là, je lui ai demandé de regarder l'œuvre avec l'œil d'un médecin. Et très vite, après avoir observé l'œuvre, elle me dit « Mais oui, voilà, il y a une forme bombée sur la partie droite du tableau qui est très caractéristique. Vraisemblablement, c'est une femme enceinte de l'ordre de 4 à 5 mois. » Alors évidemment, on peut se poser beaucoup de questions parce que ça ouvre des hypothèses. D'abord sur le titre, une femme enceinte et le titre « L'origine du monde », on pourrait dire « C'est un portrait d'Ève ». Pourquoi pas ? Mais en tout cas, ça ouvre d'autres hypothèses, d'autres recherches.
C'est l'origine de l'humanité.
De l'humanité, d'autres recherches possibles dans l'avenir.
Dans les métaphores qui s'accumulent, il y en a une de plus.
Quoi. Voilà.
Mais donc vous disiez quand même que le titre n'était pas originel, probablement.
Ah bah ouais, c'est pas lui qui a...
Non, vraisemblablement pas. On ne trouve pas chez Courbet d'allusion, d'ailleurs, à ce tableau. Il n'en parle pas dans sa correspondance, on n'a rien. On trouve, l'une des premières occurrences de l'origine du monde, on trouve ça dans un récit de Ludovic à Lévy, mais qui est rapporté par son fils Daniel à Lévy bien plus tard, donc on ne sait pas vraiment. Hadvani, qui était l'un des propriétaires du tableau, lui, il appelait la création du monde, donc c'est encore un peu différent. On n'a aucune preuve à ce niveau, et même d'ailleurs, Castagnari, qui était un critique d'art et ami de Courbet, on a dans ses archives une liste d'œuvres érotiques de Courbet, et l'un des titres, c'est « Le vase ». Or, « Le vase », ça ne correspond à aucun tableau de Courbet. En revanche, le vase, dans le langage médiéval, c'était le
bien
sexe
sûr.
De la femme.
Bien
donc,
sûr.
On ne peut pas exclure qu'à l'époque, il se soit appelé le vase.
Alors, il a été copié par Magritte, ce tableau. Comment Magritte a-t-il eu accès directement à l'œuvre ?
La photo en noir et blanc.
Jean-Jacques Lebel, oui.
La photo en noir et blanc.
Ah, c'est la photo en noir et blanc.
Oui. Il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui ont été inspirés par cette œuvre mythique invisible.
Son invisibilité, comme l'expliquait très bien Lacan, en rajoutait au désir des artistes
évidemment.
Et au, voilà, à l'imaginaire collectif.
Voilé non seulement par le rideau en velours vert, mais était voilé par toute la culture, par
oui.
toute l'industrie culturelle qui faisait barrage pour qu'on ne le voit pas. Et puis l'histoire de la morale, n'est-ce pas, de l'ordre moral qui empêchait qu'on regarde cela, qu'on l'on voit cela. Mais je crois que Lacan l'a très bien dit tout à l'heure.
Tout à fait. Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'accueil que peut recevoir ce tableau ? Parce que j'ai l'impression, Thierry Savatier, que lorsqu'il a été présenté au musée d'Orsay au début, il y avait la recherche de l'installer de façon banale, comme n'importe quel tableau.
Oui.
Et désormais, il est isolé et présenté de façon plus spectacularisée, si je puis dire. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, pourquoi pas ? C'est un tableau qui mérite une certaine scénographie.
Le présenter de façon banale, est-ce que c'est le censurer ? Est-ce que ça veut dire le rendre inaperçu ?
En tout cas, c'est ce qui s'est passé.
C'est ce qui s'est passé.
Pendant toute une, je m'excuse de répondre, mais pendant toute une période, il était ce petit tableau perdu au milieu des grands tableaux dans les scènes de chasse. Et il y avait des touristes japonais qui passaient leur temps à demander aux gardiens où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est. Ils passaient devant, ils ne le voyaient pas. Parce qu'il était noyé, comme un poisson qui est noyé. Et le fait de l'avoir isolé pour qu'on le voit mieux, en effet, ça soulève. Ça enlève un des voiles.
Oui, tout à fait. C'est vrai que je me souviens aussi cette époque où il était placé sous une immense scène de chasse.
Et il était écrasé.
Il était écrasé. Là, aujourd'hui, il est beaucoup mieux mis en valeur.
Comment est-ce que vous allez le présenter à Ornan ?
Ah, il sera présenté selon une scénographie...
Vous avez inventé un stratagème, un dispositif
Non, vous savez, on peut effectivement toujours penser à la question du voile, parce que finalement, il a, en dehors de la période à partir de laquelle il est entré à Orsay, il a toujours été voilé. Mais non, pas du tout. En revanche, il sera présenté, il sera bien mis en valeur. Et il y aura également d'autres œuvres, notamment cette photo en noir et blanc dont vous parliez, Jean-Jacques, qui est issue d'un livre.
La photo de Belloc, vous voulez vous dire
Nous aurons une photo de Belloc.
La photo qui a été connue du tableau, c'est
voilà,
ça que vous voulez dire.
La première photo qui a été publiée au tout début des années 30 par Edward Fuchs dans un ouvrage qui s'appelle Die Grossenmeister érotique, et cette photo,
c'est de là que tous les fantasmes
sont partis. Livre d'ailleurs extrêmement rare, puisqu'il a été détruit par les nazis
comme par hasard
à l'époque. Et nous aurons aussi la copie présumée de Magritte qui sera exposée pour la première fois.
Pourquoi dites-vous la copie présumée ?
Parce qu'on n'a aucune certitude
que c'est Magritte qui l'ait peinte.
Que c'est Magritte qui l'ait peinte. On sait, elle a appartenu, cette copie, à Loduca, qui était un grand spécialiste de l'art érotique. Et il se trouve qu'à l'époque, Loduca était voisin de Jeanne Graverolle, peintre surréaliste belge, ami de Magritte, et de Gaston Ferdière. Et Jeanne disait que c'était Magritte qui l'avait peinte. Et il est vrai que Marcel Merian, dans ses mémoires, raconte que pendant la guerre, Magritte a peint beaucoup de faux.
Fallait bien oui, c'est vrai, je sais bien, c'est exact.
Donc, on pense que c'est de Magritte, mais on n'a pas de certitude à 100%.
Ce qui est merveilleux, c'est le sillage que fait cette œuvre dans notre imaginaire à tous, dans celui de tous les artistes. Il me reste à vous remercier, Jean-Jacques Lebel, merci infiniment. Je sais que vous préparez une exposition personnelle à Karlsruhe, au ZKM, qui sera quand ?
Le 25 juillet.
Thierry Savatier, merci infiniment. Donc,
merci
je rappelle qu'il y a ce nouveau livre qui va sortir dans quelques jours sur comment l'appelez-vous ?
Courbet, une révolution érotique.
Voilà. Et votre exposition, tout l'été prochain à Ornans.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs, une émission en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons observé une peinture de Gustave Courbet de 1866, huile sur toile, conservée au musée d'Orsay. Et je vous signale que vous pouvez, vous êtes un peu turbulents les amis, hein, je vous signale que vous pourrez aller admirer cette œuvre au musée Courbet Ornans, qui est prêtée exceptionnellement par le musée d'Orsay pour une exposition donc intitulée L'origine du monde, cet obscur objet du désir qui aura lieu du 7 juin au 1er septembre 2014. Durant l'émission, vous avez pu entendre un extrait du film Partie de campagne de Jean Renoir. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. Attaché d'émission, Claire Coinsignon, merci Claire. Lecture des textes, Yann de Monterneau, très bien lu d'ailleurs. À la technique, Pierrick Charles. Réalisation, Marie-Laure Ciboulet. Les Regardeurs, une émission de Jean de Loisy et de Sandra Adam. Merci Sandra, vous l'avez merveilleusement préparée.
Come before you go, babe. Go until you come, babe. Come until you go, babe. Go to come for me, babe. Come to go by me, babe. Come to go.